Nous sommes heureux de revoir quelques bien-aimés après des semaines de souffrance. Ils sont au milieu de nous. Voilà Jean-Louis, Stéphane, Joël. Voilà que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous relève complètement. Voilà, nous méditons depuis pas mal de temps sur la connaissance de Dieu. Donc nous avons vu la révélation qui amène à la crainte de Dieu. Nous avons vu également la souveraineté de Dieu. Et la dernière fois, ensemble, nous avons commencé à parler de la souveraine providence de Dieu. Alors toutes ces choses nous amènent à connaître un petit peu mieux Dieu, et plus nous le connaissons, plus nous l'aimerons, plus nos cœurs seront dans la paix. Il faut reconnaître que Dieu est tellement grand que ça nous dépasse. Et les paroles de Job, souvent on peut les faire une autre, je peux les faire mienne en disant « j'ai parlé des choses qui me dépassent, des choses tellement grandes. J'ai parlé une fois, deux fois, trois fois, je me tairai. » Et puis à la fin du livre de Job, il dit « mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et c'est important de nous approcher de Dieu, c'est un mystère, c'est tellement profond, c'est le Saint-Esprit avec la parole qui applique à nos cœurs, c'est dans un cœur qui a soif, un cœur qui est dans le calme, dans la recherche, et Dieu se révèle, pas dans l'agitation, mais dans le calme et dans la confiance, Dieu se révèle. Alors je vous propose ce matin de poursuivre cette méditation sur le thème de la providence souveraine de Dieu ou la providence divine de Dieu. Dans les temps troubles dans lesquels nous vivons, nous avons besoin de quelque chose de sûr, de solide, d'une parole comme d'un fondement, parce que tout est ébranlé, tout va continuer d'être ébranlé, ça va s'intensifier. Alors vous allez peut-être dire ce matin, je voulais entendre une parole, mais c'est une grâce que le Seigneur nous fait de nous préparer. Parce que si nous sommes prêts, eh bien ces choses qui ébranlent la terre, qui ébranlent le monde, qui ébranlent les grands de ce monde, elles ne nous ébranleront pas. Parce que Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors c'est important d'avoir des paroles sûres, une révélation sûre, quelque chose sur lequel nous pouvons nous appuyer, parce que ça va bouger, frères et sœurs, ça va bouger beaucoup. Certains ne tiendront pas, mais nous prions pour que la grâce de Dieu nous tienne debout. Que le Seigneur nous aide. Alors nous avons besoin de nous rapprocher de Dieu afin de mieux le connaître, mieux l'entendre et que notre paix augmente, que notre foi en lui augmente. Rappelons que Dieu se révèle principalement par sa parole et par son esprit. Et nous croyons que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile. Et en augmentant, en ajoutant la foi à cette parole, eh bien, Dieu se révèle. J'aimerais lire quelques versets dans le psaume 104. On ne peut pas tout le lire, mais il est intéressant si, dans le thème que nous allons développer ce matin, psaume 104. Et c'est vrai que nous sommes impressionnés. Enfin, ce qui m'impressionne, c'est pas les grands de ce monde. On respecte tous ceux qui sont établis, on les respecte, il y en a élevés en dignité qui dirigent des pays, mais ils ne m'impressionnent pas. Celui qui m'impressionne, c'est celui qui connaît vraiment Dieu. Le Dieu qui est au-dessus de tout, celui-là m'impressionne. Et c'est vrai que nous prions pour qu'il y en ait de plus en plus qui connaissent vraiment Dieu par expérience, quelque chose de profond. Voilà, et que Dieu nous aide. Donc, psaume 104. On lira fragmenté un petit peu là. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements et elle ne sera jamais ébranlée. La terre elle-même. On va au verset 14. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme en fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban ont été plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne sa demeure dans les cyprès. On va au verset 21. Les lions rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent, ils se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre les animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce Léviathan que tu as formé pour jouer avec les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face et ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent, ils retournent dans la poussière. Et enfin du verset 33, « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel, que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. » Voilà, vous pouvez lire tout ce psaume, il est basé justement sur la souveraineté, la providence de Dieu. Alors ce psaume se termine exactement comme il a commencé. Le psalmiste, on sent qu'il connaît Dieu, ce psalmiste-là. Il n'y a pas de nom, d'auteur, mais on sent qu'il connaît Dieu profondément. Et ce psaume se termine comme il a commencé, par de la louange, de la reconnaissance envers Dieu pour sa création, sa souveraineté, sa providence. Dieu a créé, il gouverne et il pourvoit. Alors, c'est un exemple de ce que doit être aussi notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne doit commencer dans la louange, et j'espère que pour tous ceux qui ont rencontré Jésus, tous ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés, il y a eu la naissance d'une vie de reconnaissance. J'espère. Et que cette vie de reconnaissance, de gratitude, de louange, puisse se poursuivre jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, qu'elle se poursuive, parce que on comprend bien que si nous, on se plaint comme le monde, parce que ne nous leurrons pas, ne nous faisons pas d'illusions, les gens ne voient pas Dieu, mais ils nous voient nous. Et selon comment nous vivons, ils se font une idée à peu près, bien sûr après ils ont besoin eux-mêmes de la révélation, mais ils se font une idée de ce Dieu que nous prions, que nous adorons, ils se font une idée au travers de nos vies. Moi, je prie pour que je puisse le louer davantage, avoir cette vie de reconnaissance envers Dieu. Il suffit qu'on s'arrête un instant, on dit « mais je mérite absolument rien ». De quoi, eh bien, l'être vivant va-t-il se plaindre ? Jérémie dit « si quelqu'un doit se plaindre, qu'il se plaigne de ses propres péchés ». Ça règle un petit peu pas mal de choses, et que le Seigneur nous aide à le louer, à le bénir et à le célébrer. L'Esprit L'Esprit Saint nous montrera toujours Jésus, nous conduira toujours vers Jésus, nous conduira vers l'adoration, vers la prière, il nous conduira vers la consécration à Christ. Toujours l'Esprit de Dieu, il élève Jésus, il installe Jésus sur le trône de nos cœurs. Ça, c'est l'Esprit de Dieu, c'est son travail, il nous convainc, il nous remplit et il nous permet de louer Dieu alors qu'avant nous étions muets, avant nous ne pouvions pas louer le Seigneur parce que nous ne le connaissions pas et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie n'agissait pas en nous. Mais la chair nous montre tout ce qui est négatif, tout ce qui est négatif à nos yeux. Et ça, c'est la pensée humaine. Et ça nous abat, ça nous fait courber, ça nous rend malheureux. Oui, les choses, nous les voyons et elles sont ainsi. Et je ne peux pas vous rassurer parce que la parole ne vous rassurera pas dans ce domaine, ça va s'empirer. Donc si notre louange, si notre paix et notre bonheur dépendent de si nous allons bien ou pas, nous irons de plus en plus mal. Mais si notre joie, notre louange, notre reconnaissance dépendent de Dieu, nous serons toujours dans la joie. Toujours dans la joie, toujours dans la reconnaissance. Alors, il y a des moments difficiles. Il y a des moments où, eh bien, l'adversité est là. Mais au fond de notre cœur, quand nous nous approchons de Dieu, et dans les moments difficiles, approchons-nous de Dieu. Approchons-nous, même si quelqu'un me dit « mais j'en ai pas tellement envie », approche-toi de Dieu. La Bible dit que quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Il est capable de changer dans notre cœur. Dans notre cœur, il change les choses. Ah, autour, ça n'a peut-être pas changé encore. Dieu fait ce qu'il veut. Il change pas les circonstances. Il est le Dieu qui peut changer les temps et les circonstances. Il est maître. Mais même si ça ne changeait pas encore, mon cœur, eh bien, il y a de la joie parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. C'est plus grand que tout. C'est plus grand que même chasser les démons. Jésus leur a dit, mais ne vous réjouissez pas de ça. Les démons, oui, vous les avez chassés, mais c'est pas ça. Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. On comprend pas tout. On comprend pas tout, mais dans le ciel, on comprendra combien c'est grand, ça. C'est grand, c'est plus grand que tout. Et si quelqu'un n'était pas encore converti ce matin, mais c'est plus grand que tout l'or du monde. C'est plus grand que tout ce qui brille dans ce monde. C'est plus grand que tout l'argent qu'on peut amasser dans ce monde. Le salut n'a pas de prix. Ou si, il a un prix, c'est le sang de Jésus. Alors on veut le célébrer de tout notre cœur. Le choix de vie, ce n'est pas en fonction de ce que nous pouvons faire, mais de ce que nous croyons. Ce n'est pas en effet notre capacité, nos talents, nos dons, notre intelligence qui vont influer quoi que ce soit dans notre cœur, mais c'est notre foi. C'est la foi dans celui qui peut changer les temps et les circonstances. Et je me dis, merci Seigneur qu'il en soit ainsi. Merci que tu ne nous aies pas demandé des efforts personnels, que tu ne nous aies pas demandé une capacité intellectuelle, des talents, des dons. Merci Seigneur, parce que aujourd'hui, le plus petit, le plus pauvre, celui qui est handicapé, peut s'approcher de Dieu, naître de nouveau et être heureux avec le Seigneur. Dieu a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. C'est pas, ce que je veux, c'est être près de Dieu, quoi. Le reste, c'est lui qui agit, c'est lui qui fait, c'est lui qui convainc. Plus nous connaîtrons Dieu, et mieux nous vivrons. Ce qui est écrit est la réalité de ce que Dieu est et de ce qu'il a fait. Ce qui est écrit, ce que nous avons lu ce matin, ça semble étonnant quand même. Les lionceaux demandent à Dieu la nourriture. Ça vous semble pas bizarre, ça? Vous pouvez répondre, hein, c'est pas une interrogation écrite, mais les lionceaux demandent, les animaux demandent à Dieu leur nourriture. Mais moi, je le crois. Qui c'est qui le croit, là? Eh bien, voilà. On le croit, c'est écrit. Je ne sais pas comment ils demandent. Par leur cri, par leur rugissement, par le sifflement des oiseaux. Je ne sais pas comment ils demandent leur nourriture, mais ils sont nourris. Ils sont nourris, Dieu prend soin. Gloire à Dieu, on a un Dieu extraordinaire, hein. Et plus nous nous approchons de lui, plus il nous émerveille. Mais qu'est-ce qu'ici-bas peut nous émerveiller autant que la révélation de Dieu dans notre vie? Mais rien, 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 absolument rien. Nous avons tellement de témoignages dans la parole de ce que Dieu est capable de faire. Et nous avons tellement de témoins qui ont expérimenté par la foi ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu est capable de communiquer, tellement de témoins. Quelqu'un a dit, l'ignorance de la providence de Dieu, c'est-à-dire de celui qui pourvoit, l'ignorance de la providence de Dieu est la plus grande de toutes les misères, et sa connaissance est le bonheur le plus élevé. Connaissance de la providence de Dieu. Dieu pourvoit. Vous voyez, il y en a quelques-uns qui le croient. Non, je crois que c'est pas parce qu'on dit Amen que... Voilà, mais c'est bien de le dire aussi. Voilà, Dieu pourvoit. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre si nous croyons que Dieu est souverain, qu'il ordonne, gouverne toutes choses. Son plan s'accomplira envers et contre tout. Avec nous ou sans nous, son plan s'accomplira. Nous pouvons être sûrs que même si tout s'écroule autour de nous, dans ce monde, Dieu utilisera même ces circonstances pour sa gloire. Romains 8, 28. Alors, bref rappel sur la souveraineté, il faut y revenir parce que c'est des concepts théologiques qui sont tellement profond, on pourrait parler pendant 6 mois de la souveraineté de Dieu, de la providence de Dieu, mais bien sûr c'est un aperçu, après c'est à nous aussi de méditer, de continuer la méditation. Donc rappel, la souveraineté de Dieu, c'est Dieu qui règne sur tout ce qu'il a créé. Il est au-dessus de tout et de tous. Il est le maître incontesté. Il est assis sur son trône et il règne. Ça, voilà, c'est acquis, c'est comme ça, la parole de Dieu nous le dit, et il en est ainsi. Personne ne peut dire à Dieu, mais pourquoi tu fais ça? Ou peut-être un pécheur, rebelle, mais sinon, on lui dit, Seigneur, mais tu es merveilleux. C'est encore plus que ce que je pensais. Donc la souveraineté. La providence, c'est la relation permanente de Dieu avec sa création. Il n'a pas seulement créé, il n'est pas seulement au-dessus de tout, mais il a une relation permanente. C'est-à-dire qu'il voit tout, il pourvoit, il sait tout, il intervient dans les situations. Dieu est partout et il intervient. Ça nous dépasse dans le monde entier, dans l'univers entier. Parce que l'univers n'est pas ordonné et en harmonie tout seul. C'est Dieu qui soutient toute chose. Il soutient toute chose. Après avoir créé toute chose, Dieu n'a pas abandonné sa création et sa créature, mais par sa main invisible, comme nous avons vu il y a 15 jours, par sa main invisible, il soutient, il pourvoit, il dirige toute chose. Notre vie n'est pas le fruit du hasard. Si quelqu'un pensait en rentrant dans ce lieu qu'il ne sait pas pourquoi il est sur la terre, il ne sait pas pourquoi il vit, notre vie n'est pas le fruit du hasard. Nos circonstances ne sont point cachées aux yeux de Dieu. Ce que nous traversons n'est pas déconnecté du regard de Dieu. Un Dieu souverain, ça pourrait nous faire dire, mais il est tellement élevé. Mais non, nos circonstances n'échappent pas au regard de Dieu. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, à ce que nous... à ce que notre capacité à endurer les choses, non, nous ne sommes pas livrés à cela, mais par la foi, nous allons voir la main invisible de Dieu comme Moïse l'a vu. J'avais cité ce verset, mais il est tellement beau dans Hébreux 11, 27. Et ce qui se passait en Égypte, c'était autre chose que ce qui se passe là. Hein. Quand Moïse a dû sortir de l'Égypte, c'était pas rien, hein. Pharaon, c'était un despote, c'était celui qui était le plus grand de son époque dans le monde. Et il nous est dit dans Hébreux 11, 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, Moïse, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Ah, peut-être quelqu'un dira, quelle chance il avait, Moïse, de voir celui qui est invisible. Eh oui, il l'a vu par la foi, on ne sait pas comment, mais le fait que Moïse ait un contact avec Dieu lui a donné une paix indicible. Il n'a pas eu peur, il n'a pas été effrayé devant Pharaon, devant la colère de Pharaon. Et un Pharaon en colère, ça devait... Ben lui, il n'a pas été effrayé. Il est resté calme, il est resté paisible. Il savait que Dieu était au-dessus de Pharaon. Il le savait. Il savait que le Seigneur régnait. Donc Dieu agit pour la destinée, nous l'avons dans l'Ancien Testament, la destinée d'un peuple, d'une nation. Il agit dans le monde entier. Son plan est en train de s'accomplir pour l'humanité entière. Nous sommes et nous vivons les derniers temps. L'apôtre Jean parle même des derniers jours. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans la première épître de Jean. Derniers jours. Nous vivons en tous les cas ces derniers temps où ça semble bouger, ça semble être ébranlé, il y a des crises partout, sanitaires, mais elles s'enchaînent, elles sont liées les unes aux autres. Mais il semble que rien ne va pouvoir tenir, mais Dieu est en train d'accomplir son plan. Les grands sont déstabilisés, et nous prions bien sûr pour les autorités de notre pays. C'est pas simple, c'est pas facile, et nous prions pour cela, mais eux sont déstabilisés, mais Dieu non. Il est encore assis sur son trône et il règne. Son plan va s'accomplir, même si nous on pourrait être affolés et dire mais qu'est-ce qui va arriver de pire que la crise sanitaire, je ne sais pas. Qui aurait pensé un instant qu'un virus aurait mis le monde à genoux? Personne. Personne, moi jamais j'aurais imaginé le moins du monde que ça puisse arriver, quoi. Et c'est arrivé. Mais Dieu est au contrôle. Alors on se dit, si Dieu contrôle l'humanité, ah, c'est bon de lui confier ma vie, parce que c'est bon que Dieu contrôle notre vie, quoi. C'est merci Seigneur pour sa grâce. Donc Dieu contrôle le monde. Son plan est en train de s'accomplir. Mais il se préoccupe en même temps d'une pauvre veuve. Ça nous dépasse, mais ça nous émerveille. Ça nous émerveille. Dieu s'occupe de l'humanité et il s'occupe de toi, mon frère, ma sœur, ami qui est rentré dans ce lieu, qui ne connaît peut-être pas Dieu, mais Dieu a le regard sur toi, il veut vraiment se révéler pleinement afin que tu aies un cœur qui ait non seulement la paix, mais la joie. La joie de dire, mais comment ça peut se faire que ce Dieu qui est souverain sur l'univers s'occupe de ma vie? Je n'arrive pas à le comprendre, mais je le crois. Je le crois. Et en le croyant, eh bien, nous voyons cette main invisible. Nous pouvons dire que Dieu agit dans nos circonstances. En d'autres termes, en croyant dans la providence de Dieu, dans sa bonté, dans sa puissance, nous amène à croire qu'il gouverne, qu'il soutient, qu'il accompagne, qu'il dirige toutes choses, de la plus grande étoile dans la galaxie jusqu'à ce petit moineau sur sa branche. Ça vous dépasse pas, ça? Moi, je comprends Job qui dit, mais j'ai parlé des choses, mais c'était tellement petit par rapport à ce que tu es. Et il faut l'avouer, nous connaissons, notre connaissance de Dieu, elle est quand même limitée. Nous avons besoin toujours plus de le connaître, que cette révélation s'accomplisse. On a l'impression, vous voyez, quand on est nouveau converti, enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, parler tellement de choses, on nous posait des questions, et on essayait d'expliquer la Genèse, la création, mais vous vous rendez compte? On n'avait rien compris encore, ou si peu. Et on essayait de... Et au fur et à mesure, plus nous connaissons Dieu, plus l'humilité gagne nos cœurs. Et oui, on se dit, mais je ne suis pas digne de parler de celui qui dirige l'univers. Qui suis-je, moi, pour parler ou témoigner? Mais Dieu nous appelle à parler de lui. Même si notre connaissance est limitée, eh bien Dieu nous appelle à le faire connaître. En tous les cas, tout est pour sa gloire et manifeste ce qu'il est. Souvenons-nous toujours que Dieu se suffisait à lui-même. Nous l'avons dit, mais Dieu se suffisait à lui-même. Il n'était pas obligé de créer quoi que ce soit ou qui que ce soit. Dieu n'était pas obligé, il se suffisait à lui-même. La création qui est venue à l'existence par la parole toute-puissante de Dieu, c'est la manifestation de son amour. Dieu n'était pas obligé de nous créer, de créer la nature. Il n'était pas obligé. Il se suffisait à lui-même. Quel amour immense ! Dieu m'a voulu sur la terre. Tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu a un plan pour ma vie et pour ta vie. Dieu a un plan pour l'Église, Dieu a un plan pour le monde. Dieu a un plan. Moi, j'ai envie de le louer encore et de le célébrer. C'est tellement beau. Et plus je lisais ces versets, je me disais, mais c'est tellement beau. Maintenant, j'ouvre une parenthèse pour parler du salut de l'homme. Je dis que j'en parlerai, je toucherai un mot donc du salut. On a l'impression qu'on est maître de nos vies, que finalement on décide d'un claquement de doigts, je crois pas. La part qui nous incombe, elle est minime. Elle est minime. Le salut vient de l'Éternel. Il ne vient pas des hommes, il vient de l'Éternel. C'est Dieu qui a pris l'initiative, qui a pensé et prévu pour notre salut avant la fondation du monde. Avant même que nous existions, Dieu avait pensé et prévu un moyen de salut. Il a été prophétisé pour la première fois dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15. Vous le lirez, c'est la première prophétie qui va nous parler de la croix, du salut. Dieu a prophétisé. Et tout au long de l'Ancien Testament, Dieu va prophétiser, au travers des différents prophètes de Dieu, Dieu va prophétiser le salut. Alors, dans le psaume 22, si vous prenez des notes, dans le psaume 22, il est question de la croix. Dans Ésaïe au chapitre 9, dans Ésaïe 53, bien sûr, dans Michée au chapitre 5, et d'autres textes encore dans l'Ancien Testament, il y en a tellement, qui nous parlent de la croix, qui ont prophétisé le salut. Ça a été préparé de longue date, avant la fondation du monde. Et il nous est dit dans Galates 4, quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Au temps marqué, Dieu a envoyé son Fils. Mais il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de... c'est pas venu d'un coup, Dieu s'est aperçu que les hommes avaient besoin, donc vite il envoie son Fils. C'était prévu, c'était préparé. Dieu a déjà tout prévu. Pour nous, ce qui nous paraît une inconnue, dans le retour de Jésus, il va arriver bientôt, ça nous paraît... Mais c'est prévu par Dieu. J'allais dire à la minute près et au millimètre près. Dieu a tout préparé. Donc ça a été prophétisé tout au long de l'Ancien Testament. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Il a tout accompli. Il est remonté au ciel, il est à la droite de Dieu et il a envoyé le Saint-Esprit qui va concrétiser ce salut dans le cœur de l'homme pécheur. C'est le Saint-Esprit qui va appliquer à nos cœurs ce que Jésus a accompli sur la croix. Parce que par nous-mêmes, c'est pas possible. Par nous-mêmes, on ne peut pas se sauver soi-même, on ne peut pas comprendre exactement le salut. C'est l'initiative de Dieu, c'est lui qui a tout accompli, c'est lui qui a tout prévu, préparé. Et maintenant, c'est le Saint-Esprit qui agit et qui applique ce salut qui nous convainc dans notre cœur afin que nous puissions être sauvés. Tout nous vient de Dieu. On n'a rien à se glorifier à quoi que ce soit dans le salut, ça vient de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. Et j'aimerais, au fur et à mesure que je vais un petit peu développer cette parenthèse, que nous ayons une paix qui grandisse dans notre cœur pour ceux qui ne sont pas sauvés autour de nous. Voilà, c'est le but, hein. Sachant que Dieu, qui est souverain, qui pourvoit pour tout, mais il pourvoit aussi pour le salut. Nous avons de nombreux exemples dans la Bible. Oh, il y en a juste quelques-uns qu'on peut citer, parce que si on parle juste de concepts, c'est difficile des fois, mais quand on parle d'exemples, de témoignages, on comprend bien. Regardez ce ministre éthiopien. Il est tout seul, il est dans un chemin désert, mais qui va l'intercepter, qui va lui parler? Dieu a eu le regard sur cet homme. Ce ministre éthiopien qui lisait, au chapitre 8 des Actes des Apôtres, il lisait dans le prophète Ésaïe, justement, Ésaïe 53, il lisait, il ne comprenait pas, et Dieu va envoyer quelqu'un, Philippe, jusqu'à lui pour lui prêcher le Christ. Mais c'est beau. Cet homme dans le désert, il avait la parole, mais il ne comprenait pas. Mais de qui s'agit-il, lui pose la question. Et commençant par Jésus, il lui expliqua l'évangile. Et cet homme a été touché par le Saint-Esprit et il a décidé de se faire baptiser. Quand ? Sur le champ. C'était un chemin désert, mais il y avait quand même un petit étang. Et il l'a baptisé, que Dieu soit béni. Quand nous voyons dans Acte 9, Saul de Tarse, comment c'était possible que Dieu puisse toucher un cœur comme Saul de Tarse ? Mais il est maître, il est souverain. Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Saul de Tarse a été touché certainement par le meurtre d'Étienne. Il a vu ce que c'était la mort d'un véritable croyant. Il l'a vu de ses yeux. Et certainement, ça a travaillé son cœur. Et sur le chemin de Damas, eh bien, Dieu va l'arrêter, Dieu va se révéler à lui, il va le convaincre, et c'est devenu, eh bien, ce grand apôtre Paul, que Dieu soit béni pour ces circonstances que Dieu a favorisées. Nous allons dans Acte 10, c'est pareil, le centenier Corneille, qui était là, il priait de tout son cœur, il priait honnêtement, mais il était dans une religion, et un ange va lui parler. Donc on se dit, au fur et à mesure, mais Seigneur, tu es capable de toucher un cœur d'un conjoint, d'un enfant, de je ne sais pas comment, mais Seigneur, tu es capable. Il faut que nous puissions le croire. Il faut que nous puissions dire, Seigneur, tu es maître en toutes choses, tu pourvois en toutes choses. Si nous sommes là, c'est un effet de ta grâce. Seigneur, tu nous as touchés à nous. Enfin, moi j'étais dur, et bon, Dieu a touché. Il ne peut pas toucher un autre ? Il peut le faire. Et nous devons lui faire pleinement confiance. Dans Acte 16, Lydie, qui est là, elle prie sincèrement. Et il nous est dit que Dieu lui a ouvert l'esprit, le cœur, afin qu'elle soit attentive à la parole de Dieu. Mais c'est une manifestation encore de Dieu, là. Elle ne peut pas dire, oui, c'est moi, j'ai cherché Dieu et je l'ai trouvé. C'est plutôt Dieu qui nous a cherchés et qui nous a trouvés. On a l'impression que c'est nous qui avons... Mais c'est Dieu qui nous a cherchés et qui nous a trouvés. Et on pourrait continuer la liste, le geôlier, il lui a fallu un tremblement de terre quand même, un tremblement de terre et aucun mort. Pas de dégâts, juste les portes de la prison qui s'ouvrent. Il a fallu ça, mais Dieu est intervenu. Et ce geôlier a été sauvé, lui et sa famille. Quel Dieu merveilleux nous avons. Quel Dieu merveilleux. Et la part de l'homme dans tout ça. On a l'impression, comme je le disais tout à l'heure, que l'homme est maître de sa destinée. Moi, je ne crois pas. Parce que Dieu est celui qui est capable de faire plier le genou. Il le fera par amour, c'est sûr, mais il est capable. Il y a en réalité une petite part, le libre arbitre, appelons-le comme on veut, une petite part, mais c'est Dieu qui se sert des circonstances pour nous appeler au salut. Souvenons-nous de notre propre expérience, je ne sais pas comment vous êtes convertis, pour la plupart, dans les circonstances, mais on pourra dire avec le recul, c'était le bon moment, c'était le moment favorable. Il y a eu telle et telle circonstance, il y a eu tel témoignage, hop, ça m'a amené. Mais qui a favorisé cela ? Oh, vous pouvez le dire plus fort, je ne sais pas. C'est Dieu qui a favorisé, qui a... Ah oui, notre Dieu est tellement grand, il y a tellement et tellement de choses. Je crois plus à la préscience de Dieu dans le salut qu'à la prédestination. Pourtant, vous avez des textes où, bon, il faut prendre des bonnes traductions, mais où il est parlé de prédestination. Je crois que Dieu favorise les circonstances parce qu'il sait à l'avance celui qui va se tourner vers lui. Alors que la prédestination, et certains y croient, et moi je respecte, mais la prédestination, c'est Dieu choisit à l'avance qui va être sauvé, qui ne va pas l'être. Alors avec l'ensemble de l'Écriture, je ne peux pas me plier à cela. Pour moi, c'est plutôt la préscience de Dieu. Dieu qui fera tout, parce qu'il connaît à l'avance ceux qui vont se convertir, mais il ne dit pas « lui sera sauvé » et « lui ne sera pas sauvé » avant sa naissance. Vous êtes d'accord ou ? Voilà, enfin, moi, c'est ma ligne de conduite. Alors, dans notre vie, les circonstances ont permis que j'entende un témoignage, que j'entende la prédication, que je lise la Bible, qu'il y ait une circonstance, peut-être un miracle même, je ne sais pas. Mais ces circonstances m'ont permis de me tourner vers Dieu. Ensuite, le Saint-Esprit nous a touchés, convaincus, comme dans Actes des Apôtres, des gens qui étaient allés à Jérusalem pour adorer, c'était des gens religieux. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit a agi, il a parlé, il y a eu des choses étonnantes le jour de la Pentecôte. Et ces gens-là, eh bien, ils ont écouté la prédication de Pierre. Et ce jour-là, la Bible nous dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Est-ce qu'en partant de chez eux, parce qu'ils venaient du monde d'alors, de tout le bassin méditerranéen, est-ce que quand ils sont partis pour aller à Jérusalem pour adorer, est-ce qu'ils se sont dit à un moment, ben, je vais rencontrer vraiment celui que j'adore sans le connaître ? Non, pas du tout. Mais Dieu savait. Et Dieu a favorisé les choses afin qu'ils soient touchés, ils ont été touchés à la prédication de Pierre. La régénération, la nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pas notre œuvre. On ne se change pas soi-même. Soit le Saint-Esprit a agi, nous sommes nés de nouveau, et il régénère en nous, soit il n'y a rien, il y a la mort. On ne peut pas. C'est pas un effort de volonté, un effort de se tenir, de faire les choses. Ça vient de Dieu, c'est un miracle. C'est un miracle. Le salut, c'est cela. Le salut, ce n'est pas une religion, ce n'est pas des œuvres, ce n'est pas je m'applique à essayer de plus dire ça, de plus faire ça, je m'applique. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous et qui nous pousse vers Jésus et qui nous pousse vers le serviteur, l'exemple parfait qui est Jésus et qui nous rend capables. Parce que vous savez, même dans ce domaine, la Bible dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Vous voyez, on a aucun sujet. Si quelqu'un avait un sujet de se glorifier, il n'y en a aucun. Tout nous vient de Dieu. Et je dis, merci Seigneur que tout nous vienne de toi. Merci Seigneur. Nous n'avons plus qu'à te faire confiance, à te laisser faire, à dire Seigneur, mais qui suis-je moi ? Vase d'argile pour dire au potier, mais comment tu fais ? Ça, en me plaignant, c'est ce que je dis. Mais ça, là-bas. Louons-le. Bénissons celui qui nous a voulu, de celui qui a un plan pour nous. Ça bouge, il y a des circonstances dans notre propre vie, autour de nous, ça bouge. Mais Dieu ne bouge pas. Or, si nous sommes en communion avec lui, il nous communique sa paix, sa joie et son espérance. C'est comme ça, plus nous méditerons la parole, soyons remplis, bon du Saint-Esprit bien sûr, mais soyons remplis de la parole. Qu'elle habite, l'apôtre Paul dit qu'elle habite abondamment nos cœurs. Qu'elle habite abondamment nos cœurs. Comment elle peut habiter abondamment nos cœurs ? En la lisant ? Oui, en la lisant, en croyant et en obéissant. Cette parole, elle vient se graver. Le Saint-Esprit nous est donné. Voilà. Si nous lisons seulement, c'est mieux que de ne pas la lire. Mais si nous lisons seulement en disant, mais oui, il y a ce verset, mais enfin, tout ce qui est écrit est inspiré de Dieu. Il nous est dit, l'apôtre Pierre dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. Donc ce qu'ils ont dit, c'est réel, c'est vrai. Nous pouvons nous y appuyer. Oui, Dieu pourvoit pour les animaux, pour la création. Si tout demeure comme c'est parce que Dieu l'a décidé ainsi. Un jour, ça ne restera plus comme c'est. Mais pour l'instant, la porte de la grâce, elle est encore ouverte. Et je vais rapidement, mais Dieu nous a placés dans la nature, et la nature nous parle de Dieu. Dieu nous a donné une conscience, et notre conscience nous pousse vers Dieu. Dieu nous a donné sa parole, et sa parole nous parle de lui. Le Saint-Esprit nous a été donné, il nous parle de lui. Tout cela nous pousse à nous tourner vers Dieu. Seul le péché d'orgueil, eh bien, retient l'homme dans une résistance terrible. Moi, je dis, pour résister à l'appel de Dieu, il faut vraiment quelque chose de dur. Parce que Dieu nous a créés avec un cœur tendre afin de pouvoir nous tourner vers lui. Mais quand on dit « Non, c'est moi qui décide, c'est moi », si ce matin il y en avait un, mon frère, mon ami, repens-toi et tourne-toi vers Dieu. Et lui, quand il conduit nos vies, il le fait bien. Le salut nous avons été sauvés et nous voulons avoir ce témoignage. Pour ceux qui ne sont pas sauvés, ayons deux choses importantes, un bon témoignage à leur égard et surtout beaucoup, 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 je rajoute encore, beaucoup, beaucoup, priez pour eux. Ayons un bon témoignage à leur égard et prions en temps et hors de temps. Prions, prions, prions. Je sais que c'est l'exercice que la chair n'aime pas du tout, mais faisons taire cette chair et prions Dieu parce qu'il est le seul à pouvoir convaincre un cœur. Le seul, il va aller trouver là où il se trouve, là où il est ce matin, là où il se trouve, je ne sais pas, mais l'Esprit de Dieu est capable de le trouver, de révéler. Dieu a prévu pour le salut et il a pourvu. Alors je vais vite, cette notion de providence de Dieu, providence divine, doit nous amener automatiquement à la confiance en Dieu. Ça doit nous amener à nous reposer sur Dieu. Malgré nos questions sans réponse, malgré les épreuves, malgré l'adversité, nous... En tant que disciples de Christ, eh bien, nous tournons vers celui qui peut tout. Nous ne pouvons rien, nous l'avons vu la dernière fois, c'est pas avec nos inquiétudes que nous augmenterons notre vie d'une coudée, de la durée de notre vie d'une coudée. Mais lui, il peut agir, il est le seul. N'essayons pas de faire rentrer de force dans la tête ou dans le cœur, encore moins de quelqu'un, des versets. Vivons la parole. Vivons la parole et celui qui est à côté verra quelque chose, eh bien, de ce Christ en nous, même si il n'est pas encore développé, mais il verra quelque chose de Christ. C'est également celui qui gouverne le monde, mais il est aussi le Père compatissant qui nous a sauvés et qui nous prépare une place chez lui. Dieu nous a invités chez lui. Il nous prépare une place chez lui. Et j'imagine, enfin je pense que ce sera très 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 bien chez lui. Il nous invite, tous ceux qui le veulent, tous ceux qui se tournent vers lui, tous ceux qui croient, il nous invite chez lui. Et il y aura une fête pour commencer. Hein. Les noces de l'agneau. Alléluia. Alors faisons-lui confiance. Cette providence divine nous amène à la patience. Romains 8, 28, les choses négatives et les choses positives travaillent ensemble pour pour notre bien spirituel, pour nous amener petit à petit à ressembler à Christ. S'il faut, et il le faut, des épreuves, je ne sais pas comment, mais pour nous amener à l'humilité, à la patience, eh bien, même si on le dit du bout des lèvres, merci Seigneur pour ces épreuves que tu permets dans ma vie, pour que l'orgueil... Non ? Là, on le dit facile, mais quand on y traverse, bon, c'est... Voilà, mais Dieu, eh bien, nous fortifie dans... Alors, ça nous amène à la patience. Et enfin, la providence de Dieu nous amène à de la gratitude, de la reconnaissance. Qui que je sois, Dieu, eh bien, prend soin de moi. Je ne mérite rien, c'est sa grâce. Mais dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il est dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est quoi la volonté ? C'est de rendre grâce à Dieu. En toutes choses. Ah ouais, mais moi, quand ça ne va pas, je ne veux pas. Mais si, en toutes choses. Et enfin, l'espérance. L'espérance, c'est quoi ? Jésus revient bientôt. Ne nous faisons aucune illusion. Tant que nous sommes sur la terre, nous souffrirons. Tant que nous sommes sur la terre, il y aura de l'opposition. Il y aura des choses vilaines, méchantes. Tant que nous sommes sur la terre. Mais Jésus nous dit que dans le ciel, il n'y aura plus ni pleurs, ni souffrances, ni maladies, ni deuil. Plus rien de tout cela. Toutes ces choses auront disparu. Alors, ne prions pas pour ne plus avoir d'épreuves et pour être... je vous le dis, ça ne sera pas exaucé. Mais prions pour que dans l'épreuve, eh bien, nous soyons vainqueurs en glorifiant Dieu, en le louant, en le célébrant dans l'épreuve. Et ça, Dieu va nous aider par le Saint-Esprit et par sa parole. Que Dieu soit béni, on va prier le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Oui, pour ta main invisible. Seigneur, tu as pourvu. Quand nous nous retournons en arrière, nous pouvons dire « Dieu a été fidèle en toutes choses ». Seigneur, je veux te louer ce matin. Parce que, Seigneur, plus je médite ta parole, plus j'ai envie de te louer. Même dans les choses difficiles, Seigneur, quand ta parole est là et résonne, Seigneur, je veux te célébrer. Oui, comme le psalmiste, après avoir fait le tour de ce que tu as fait, de ce que tu es, de ce que... Seigneur, il dit, je louerai l'Éternel tant que j'existerai. Oui, Seigneur, je veux te bénir avec mes frères et sœurs. Permets que nous puissions te laisser faire, parce que tu sais si bien faire les choses. Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Prépare-nous, Seigneur, pour ce prochain retour. Seigneur, que l'Église soit préparée pour ce prochain retour. Seigneur, oui, tu la veux belle, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, ni orgueil, ni méchanceté. Toutes ces choses auront disparu. Seigneur, tu viens chercher ton Église pure, et c'est toi qui la sanctifie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur ce matin, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.